bonjour à tous. Ouvrez vos manuels et saisissez vos stylos. Le cours d'économie va commencer.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Dernier chapitre de notre série sur les bancs de l'école. Cette semaine, nous nous sommes glissés dans la peau de Jules Ferry, le père de l'école gratuite et obligatoire. Nous avons assisté à la bataille entre les universités et à la montée en puissance des facultés chinoises et bousculé le concept de capital humain. À présent, notre réflexion nous mène dans les cours d'économie, une discipline morcelée en de multiples courants de pensée dont les divisions reviennent régulièrement dans le débat public. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. L'enseignement de l'économie peut-il refléter la pluralité des théories et des courants de pensée? La question est complexe et pour y répondre, il fallait bien trois invités. Philippe Aguillon, économiste et professeur au Collège de France, Pierre-Michel Menger, sociologue et également professeur au Collège de France, et Agnès Labrousse, maîtresse de conférences en économie à l'Université de Picardie Jules Verne. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Philippe Aguillon, Pierre-Michel Menger et Agnès Labrousse, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous le diriez qu'il y a une inculture économique en France? Est-ce que les Français sont moins bons en économie que leurs camarades européens ou américains, Philippe Aguillon?
Je n'ai pas vraiment de comparaison avec d'autres pays, mais c'est vrai que souvent, je suis frappé par le fait qu'il y a des gens qui sont très cultivés, qui comprennent plein de choses, qui s'intéressent à la physique, à l'évolution des sciences en général, à l'épistémologie, et dès que le sujet vient sur l'économie, eh bien, je sens que voilà, qu'il y a des choses, des idées de base qui sont pas là. Par exemple, on peut demander d'augmenter le déficit et puis et de baisser les impôts en même temps. On comprend pas. Voilà, il y a des mécanismes de base qui ne passent pas. Voilà, qui ne sont pas compris. Voilà, et je me dis, bah, finalement, au lycée, on vous apprend les sciences naturelles. Moi, on m'avait appris à distinguer ce que je savais jamais faire. D'ailleurs, le crâne d'un chien du crâne d'un chat en sixième. On m'apprenait de la géologie, on m'apprenait toutes sortes de choses et jamais de l'économie, les principes de base de l'économie.
Alors, la culture économique ou non, Agnès Labrousse, et si oui, on peut se demander quelles sont les conséquences.
Alors, tout d'abord, je trouve que c'est une question qu'on pose très souvent. Hein. C'est une sorte de marronnier, cette culture économique des Français. Et finalement, on ne se demande pas tellement, par exemple, si les Français ont une culture sociologique ou juridique suffisante. Est-ce qu'ils ont des notions de sociologie des réseaux? Est-ce qu'ils connaissent la notion d'anomie ou de sociologie des marchés? Ou est-ce qu'ils ont une culture juridique suffisante? Est-ce que les Français connaissent leurs droits, savent faire la différence entre le fonctionnement des prud'hommes et d'un tribunal de grande instance? Et pourtant, ce sont aussi des questions absolument cruciales pour comprendre le monde qui nous entoure. Et puis, je dirais aussi que tout dépend de ce qu'on entend exactement par culture économique. Quand on regarde, justement, c'est souvent des sondages qui sont conduits ou différentes enquêtes pour voir si les Français sont suffisamment cultivés en économie. Beaucoup de choses portent sur la culture financière. Hein, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une une obligation, un fonds commun de placement ou les principes d'un dividende? Et en fait, finalement, c'est l'économie appréhendée à travers un regard assez particulier, bien souvent. C'est à travers la lunette des acteurs économiques.
Il y a aussi des raisons très concrètes dans les sondages, par exemple.
Sur le PIB.
Voilà. Les personnes interrogées connaissent l'ordre de grandeur du PIB de la France? Là, il y a 63% des personnes qui disent non.
Il faut ajouter que c'est un demi-point près de PIB. Enfin, voilà. Et donc là, moi, je considère pas que ce soit rédhibitoire de pas connaître le PIB, le taux de croissance, etc., un demi-point près. On peut facilement s'informer si on a besoin de savoir quel est le PIB.
Mais par exemple,
c'est
plus préoccupant de savoir qu'on peut à la fois augmenter les dépenses publiques et baisser les impôts, par exemple. Dire, là, il y a quelque chose qui s'appelle équilibre budgétaire. Ou, voilà, en tout cas, est-ce que c'est un souci ou pas? Voilà, c'est des choses là où l'offre et la demande, des choses très de base.
Ou le rapport à l'entreprise, par exemple. Oui, il y a absolument 73% des Français qui n'évaluent pas correctement ce qu'un salarié payé au SMIC coûte à son entreprise, Pierre-Michel Menger.
Le problème est intéressant parce qu'on peut le relier à des fondamentaux. Par exemple, 7 ou 8% des Français sont syndiqués. alors que les accords collectifs sont étendus à 100%. Donc, ils ont une sorte de délégation de leur savoir sur l'entreprise, les attitudes à l'égard de l'entreprise, à l'égard d'acteurs collectifs qui sont puissants par le fait de l'extension des accords, mais faibles par le nombre d'adhérents. Et je me souviens, dans mes cours, d'avoir parlé de la situation de la Suède, qui a un taux de syndicalisation très élevé, où les acteurs individuels et collectifs se sont mis d'accord dans les années 60 pour dire « nous allons adopter des salaires qui sont calés sur la possibilité d'exporter nos biens ». Et donc ça, c'est une construction économique qui vient par « j'ai besoin de défendre quelque chose, y compris mon sort personnel, mais aussi un sort collectif, par la maîtrise d'un certain nombre d'outils intellectuels et d'outils pratiques qui ont des conséquences très immédiates. En France, on a une aversion au risque, on a un taux d'épargne extraordinairement élevé, on a très peu d'actionnaires. Alors, on ne va peut-être pas trop s'étonner que les Français se disent « mais l'économie, à quoi bon ?» puisque nous avons des acteurs collectifs qui sont supposés prendre en charge notre bien-être. Peut-être que je ne vais pas plus loin dans la démonstration parce qu'il faut faudrait la voir. Et les sondages ont toujours un côté « voice », c'est-à-dire prise de parole, etc., plutôt que d'introspection. Donc, voilà.
Mais justement, si vous parlez des conséquences, on peut voir les conséquences économiques, le pessimisme envers l'avenir et effectivement l'épargne aussi trop importante qui empêcherait de financer suffisamment les entreprises, Philippe Aguillon.
Oui, effectivement, il y a de...
Mais qui serait causé par ce manque de culture économique.
Alors, je ne sais pas si le pessimisme est dû au manque de culture économique ou à une incertitude. Par exemple, moi, je pense que la manière dont la réforme des retraites est conduite ne va pas aider à rassurer les gens sur... je ne pense pas que ça va aider à traiter ce problème de... j'épargne davantage parce que je suis incertain sur mon avenir.
Est-ce qu'il n'y a pas une
donc, je ne crois pas que ça dépend tellement autant de la culture que aussi d'une incertitude sur ce que va faire le gouvernement, sur ce qui va leur tomber dessus. Sur l'évolution de l'économie mondiale. Donc je crois que ça reflète davantage ça. Le fait d'épargner reflète, à mon avis, une crainte de l'avenir.
Est-ce qu'il n'y a pas une fracture grandissante entre ceux qui possèdent les clés de l'économie et ceux qui ne les ont pas, Agnès Labrousse ?
Sans doute, en tout cas, ce que je pointais auparavant, c'est que finalement, en se focalisant beaucoup sur des questions comme la question de la finance, alors qu'effectivement, on sait que les Français n'aiment pas trop placer leur épargne en bourse, hein, parce qu'effectivement, ils ont une crainte des crises financières, etc., qui est pas d'ailleurs pas totalement infondée. Hein. Donc en fait, ils n'ont pas forcément la même expérience qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprises, d'hommes politiques qui, eux, vont fortement capitaliser. Hein. Donc, on n'est pas tous dans la même situation économique. Et donc, il faut aussi regarder du côté des savoirs économiques ordinaires. Moi, en tant qu'économiste, je ne sais pas tout, par exemple, des contraintes des agriculteurs, etc. J'ai beaucoup à apprendre d'eux. Hein.
Voilà. Et alors, par exemple, je mets une subvention au logement. Donc, a priori, c'est une bonne chose. Mais si je ne construis pas de logement, ben, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent que ça va se traduire par une augmentation du prix des logements et que finalement, tous les gains vont aller au propriétaire, par exemple, et pas à moi. Ça, c'est voilà des raisonnements qui ne sont pas... Ça devrait être des raisonnements immédiats, comme 2 et 2 font 4. C'est voilà le genre de raisonnement qui manque.
Et c'est là que l'école joue un rôle pour former justement des citoyens éclairés. Alors, est-ce que s'il y a une inculture économique, ça signifie que l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée n'est pas adapté, Pierre-Michel Minguer ?
Alors, une remarque qui me permet de faire le lien entre les deux points... La production des compétences est un sujet absolument majeur où la France n'est pas extraordinairement bien placée. Quand on fait des comparaisons internationales sur les adultes, peut-être qu'on peut espérer que nous allons produire des jeunes générations beaucoup mieux formées. C'est là un des objets de notre entretien. Mais la France n'est pas très bien placée, notamment en numératie. La numératie, c'est la culture de tout ce qui est nombre. Et dans les révolutions technologiques actuelles, elle joue un rôle considérable. Et donc, il y a là à désinhiber les individus, évidemment à faire tous les réglages possibles pour l'enseignement et à produire effectivement une génération, des générations de gens qui vont maîtriser ces outils fondamentaux. Et surtout, ça permet aussi de sortir du cadre strictement franco-français parce que nos économies sont interdépendantes. Et le raisonnement qui peut valoir, on sait par exemple que les Français sont averses ou peur de l'incertitude dans toutes les enquêtes internationales sur les comportements. Ça fait des années, des décennies que ça dure. Et c'est assez mystérieux. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? On peut espérer qu'avec une maîtrise plus grande des outils de connaissance et en quelque sorte vaincre l'écran un peu mystérieux de la complexité des faits, qui n'est jamais facile à vaincre, on peut espérer que l'école va faire un travail de fond qui est tout à fait essentiel.
Alors, par exemple, une chose que les ne comprennent pas, on met par exemple des barrières douanières. Beaucoup de politiciens disent maintenant, moi je vais mettre des barrières douanières, je ne nomme personne. Hein. Et voilà, et ça va résoudre le problème de l'emploi. Mais ils ne se rendent pas compte que d'abord ça va faire baisser le pouvoir d'achat, puisqu'il y a beaucoup de biens qu'on achète moins cher ailleurs. Et puis qu'ensuite, maintenant il y a des chaînes de valeur, c'est-à-dire que beaucoup de biens sont produits avec des inputs qui sont produits ailleurs. Si je mets des barrières douanières, ça va finir par porter atteinte à l'emploi. Il y avait eu un article très intéressant sur les, je crois, sur les machines à laver aux États-Unis qui montrait qu'en fait, les effets sur l'emploi des nouvelles, des guerres économiques avec la Chine étaient en fait négatifs sur l'effet sur l'emploi. Et ben ça, c'est des raisonnements, si vous voulez. Si vous n'avez pas fait d'économie, c'est quelque chose que, voilà, que vous n'apprendez. C'est pas quelque chose qui vient naturellement.
Et alors, justement, quel problème, quelle limite de l'enseignement de l'économie dans le secondaire on peut pointer aujourd'hui? Je vous propose d'écouter l'ancien économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard.
Ce qui m'a frappé, c'était que c'était enseigné un peu comme la géographie, comme une série de faits à apprendre par cœur, plus que comme une méthode de raisonnement. Et je crois que la manière de rendre l'économie passionnante, et elle peut être passionnante, c'est de montrer à quel point on prend une question importante, et à ce moment-là, on utilise des outils pour essayer d'y répondre, et puis ça vous amène à une première réponse. Ensuite, vous réalisez qu'il y a un autre élément qui est important, vous essayez de l'intégrer. Ensuite, vous servez de ces modèles conceptuels ou de ces modèles analytiques pour regarder les données, et on a de plus en plus de données maintenant sur les questions qui nous intéressent, et vous arrivez à des conclusions qui sont, si vous avez eu du succès, des conclusions qui sont plausibles. C'est cette interaction entre questions, faits, modèles, qui, moi, m'a toujours passionné, avec l'idée qu'à la fin, on arrive à des conclusions qui peuvent peut-être améliorer les politiques.
Agnès Labrousse, qu'est-ce que vous pensez de cette critique d'Olivier Blanchard ?
Elle me paraît assez peu justifiée, en fait, parce que c'était, il y avait une dimension très très analytique, hein, depuis l'origine des SES, hein, l'idée c'était de prendre par exemple un phénomène comme le chômage de masse et de regarder comment les différentes théories l'éclairent plus ou moins et de comparer justement les théories de manière analytique pour comprendre ce qui se passe. Et puis l'idée que ce serait finalement, il suffirait de regarder les données au travers de modèles conceptuels pour trouver nécessairement une seule bonne réponse, elle me semble assez problématique parce que les données ne parlent jamais toutes seules et il y a plusieurs modèles qui sont très souvent compatibles avec les mêmes données. D'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a un article très célèbre de 1985 sur ce sujet où on a pris 5 groupes d'économistes au sujet de la peine de mort. On leur a donné les mêmes données et on a regardé les conclusions et ça dépendait d'ailleurs très fortement de leurs présupposés politiques. Et juste un point, Olivier Blanchard lui-même a reconnu, c'est un économiste éminent, a reconnu avoir fait, par exemple, une erreur monumentale pour ce qui est de l'estimation de l'effet multiplicateur des politiques négatifs, hein, des politiques d'austérité. Donc voilà, il n'y a pas de vérité révélée en économie.
Philippe Aguillon, vous partagez ce point de vue, c'est pour ça qu'il fallait mettre en place cette réforme à laquelle vous avez participé, parce que vous avez piloté le groupe d'experts chargé de réviser les
programmes. Alors je voulais juste d'abord réagir sur l'idée. Je crois beaucoup, je ne crois pas qu'il y ait un modèle plutôt qu'un autre. Moi, je ne travaille pas comme ça, moi personnellement, et beaucoup de plus en plus. C'est un dialogue entre la modélisation et le travail empirique. Mais la modélisation, c'est pas un modèle figé. C'est des lunettes, si vous voulez. Vous regardez la réalité avec des paradigmes qui sont évidemment trop simples, mais c'est des lunettes, si vous voulez. Et puis, après, les données vous renvoient des choses qui sont conformes ou pas conformes. Et après, vous reprenez votre modélisation, votre paradigme. Et après, vous retournez aux données. Moi, je crois beaucoup dans ce va-et-vient permanent entre la modélisation et l'empirique. C'est quelque chose qu'on pouvait pas faire quand moi j'étais étudiant parce que on avait très peu accès aux données, c'était des cartes perforées, les modèles, il y en avait très peu. Et maintenant, on a appris beaucoup mieux à modéliser en économie et on a des bases de données et on peut créer des bases de données. Et ça change les choses. Voilà, donc déjà sur ce plan-là. Par ailleurs, les programmes, je ne veux pas jeter la pierre. D'abord, il y avait déjà les, pro- programme d'économie SES, c'est déjà très bien. Il y avait eu le rapport Guenry, il y a eu des progressions. Je veux dire, c'était pas du tout, l'idée n'est pas de dire on fait table rase de ce qui existait.
Il y avait déjà eu une réforme importante.
Voilà, il y avait une réforme importante et des réformes qui en sont très bonnes. Là, l'idée, c'est de se concentrer et je crois que les axes, je crois qu'il y a deux axes importants. Il y avait d'abord un premier débat. Est-ce qu'il faut prendre une question et tout de suite dire je fais sociologie, économie, sciences politiques sur cette question, ou est-ce que d'abord on développe les méthodes et les raisonnements de chaque discipline et ensuite on croise les regards. Et nous, on a fait le choix pour le deuxième. Donc ça, c'est un premier débat. Le deuxième débat, c'est que de plus en plus, la macroéconomie, ce qu'on a de la macro, c'est-à-dire on dit la consommation d'un pays, l'investissement d'un pays, de plus en plus, pour comprendre la macroéconomie, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il faut des fondements microéconomiques. On ne peut plus aborder la macro comme ça, d'emblée. Il faut partir de la micro pour aller vers la macro. Je crois que le programme qu'on vient de faire, là, maintenant, reflète davantage ce côté fondements micro, qui est d'ailleurs une tradition française. C'est Malinvaux, c'est Benassi, c'est Younes. C'est venu de la France, l'idée des fondements micro de la
macro. Mais les critiques estiment que ça risque de décourager les élèves si le programme de première est moins attrayant que celui de terminale et que commencer par la microéconomie, c'est un petit peu compliqué, Pierre-Michel Menguer.
Je pense qu'il faut jamais oublier dans quel monde nous sommes maintenant. Les données sont surabondantes. Ce qui manque, c'est comment les faire travailler dans des modèles qui font interagir des facteurs. Ça, c'est la pensée un peu plus complexe que dire j'ai un facteur qui va tout expliquer. Non, il y a des interactions de facteurs. Donc, il faut les rapprocher, les faire travailler, tester des hypothèses. Ça, c'est la démarche de base. Et n'importe quel individu doit le faire, le fait presque inconsciemment à bien des égards. Et tous les jours, on teste toutes sortes d'hypothèses. Est-ce que ce feu va être rouge quand je vais arriver avec mon vélo, etc. Et puis d'autre part, penser que le monde, évidemment, est quantifiable à bien des égards, mais qu'il n'y a pas que ça, et que donc on peut procéder à un raisonnement assez solide en ayant le même genre d'approche, que ça soit dans les sciences sociales sont à la même enseigne de ce point de vue-là. La rigueur du raisonnement et la force d'une science sociale, c'est la rigueur du raisonnement, c'est la maîtrise de la construction des données et ce sont des tests pour faire des preuves. Et puis les sciences, elles sont cumulatives, elles se détruisent par rapport, tout n'est pas vrai, vérité d'évangile. L'histoire passe par là, on détruit des hypothèses qui n'étaient pas bonnes, on les conteste, la compétition entre les scientifiques est majeure.
Mais on peut dire que la modélisation, c'est tout de même un progrès important, la modélisation fondée sur le big data, et qui, même s'il faut la manier peut-être avec prudence.
Maintenant. C'est à la portée de tous. Les économistes font des travaux sur la mobilité intergénérationnelle avec des données de base. C'était le champ à peu près clos des sociologues, et ils se retrouvent maintenant à travailler là-dessus. Et c'est tant mieux. Et on verra bien quels sont les résultats qui sortent. Parce que les données sont énormes et sont considérables. Et elles vont devenir un bien commun. Elles sont démocratisables, les données. Et si vous avez les outils pour les exploiter, c'est fantastique.
Mais encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas les prendre avec prudence, ces données? Est-ce qu'elles ne sont pas politiques? Elles ne sont pas neutres, Agnès Labrousse.
Oui, alors je voudrais juste revenir sur le point précédent par rapport à la réforme des SES. Moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que ce qui faisait la force et l'intérêt des SES, la démarche pédagogique des SES, c'était d'éviter la pensée en silo et d'éviter justement que les disciplines soient mises dans des tiroirs différents. Alors, dans chaque discipline, en sociologie, il y a plusieurs écoles de pensée. En économie, il y a plusieurs écoles de pensée. Donc, il n'y a pas la méthode économique et qu'on mettrait en face de la méthode sociologique. Il y a une pluralité d'écoles de pensée. Et je reviens sur le point développé par Pierre-Michel Menguer, l'interaction de différents facteurs. Un acteur, il n'est pas à un moment, quand il va acheter son pain, à un moment un acteur sociologique et à un autre moment un acteur économique. Il est tout ça à la fois et en même temps. Et donc, quand on développe une pensée par silo, on n'est pas capable de comprendre le caractère fondamentalement multidimensionnel. Alors, peut-être j'en viens au cœur de votre question qui porte sur les qualités des données. Bien sûr, comme tout le monde, je suis assez enthousiaste sur la montée des données disponibles, big data, etc. Mais en même temps, il faut être très très précautionneux parce que ce sont des données qui sont souvent de qualité très très hétérogène. Il importe vraiment de voir comment elles sont construites et malheureusement, elles ne sont pas toujours un bien commun. Quand c'est Uber qui fournit ces données, il va le fournir à certains chercheurs et pas d'autres. Et en général, ils vont habilement chercher des chercheurs dont ils pensent qu'ils peuvent avoir des présupposés qui leur sont favorables. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est de la statistique publique, c'est quand même plus sûres comme données. C'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en France, et ces données sont maintenant disponibles.
Mais les big data, elles ne sont pas originaires pour la plupart de la statistique publique.
Les données d'entreprise, c'est encore une autre affaire. Mmh. Mais il y a maintenant tout un processus de cylindrage de ces données et de contrôle qui peut être fait de toute façon.
Vous avez soulevé une question importante, Agnès Labrousse, sur la question de la pluralité. Je voudrais vous faire entendre cet extrait.
Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Esther et j'ai tout juste 18 ans, je suis encore au lycée. Durant toute ma scolarité, Monsieur le Ministre, on ne m'a parlé que de développement durable. Vous savez autant que moi à quel point ces deux notions sont contraires, une croissance infinie n'est pas compatible avec la question de la durabilité. Dans aucun manuel scolaire, on développe la théorie de la décroissance, avec un changement de système économique consommé différemment. Pourquoi, Monsieur le Ministre, vous n'offrez pas tous les points de vue, toutes les alternatives aux élèves pour qu'ils se fassent leur propre opinion et développent leur propre point de vue? Merci d'avance.
Oui, les programmes sciences économiques et sociales ont changé pour cette rentrée, en équilibrant d'ailleurs davantage les sujets d'économie et de sociologie. De ce que je connais des manuels, ils parlent beaucoup du développement durable et ils font droit à des théories comme celle que cette jeune lycéenne a développée.
La décroissance.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, enfin, après, un manuel n'a pas vocation à aller ni dans un sens ni dans un autre sur le plan idéologique. Il doit être équilibré, de même que les programmes. Je crois que c'est le cas actuellement.
La réponse du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, extrait de l'émission Le Grand Jury sur LCI en septembre dernier. La réforme des programmes a-t-elle étouffé la diversité des courants de pensée en économie?
Alors, je vous explique d'abord, il y a une chose. C'est-à-dire que par rapport, moi, quand j'ai appris l'économie, quand j'ai commencé à apprendre l'économie en France, on raisonnait par école. Bon, il n'y avait pas de données pratiquement, il n'y avait pas d'empirique. Alors on vous disait, voilà, il y a l'école marxiste, il y a l'école Sraffa, il y a l'école néoclassique, et on vous apprenait par école, voyez. Mais l'enseignement de l'économie maintenant ne se fait plus du tout comme ça. On fait des cours d'histoire de la pensée comme ça, mais l'enseignement de l'économie se fait. On dit, voilà, on a une question économique, il y a différents, et maintenant c'est la confrontation de modèles avec des données, mais qui intègre. On a intégré, par exemple, la notion d'exploitation est intégrée. D'une série de concepts que les classiques ou les keynésiens ont développés, eh bien, font partie du corps commun. Donc, quand on enseigne l'économie, ils incorporent, en fait, les apports des différentes écoles. Mais maintenant, c'est la confrontation avec les données. Et entre la modélisation et les données.
Le chômage est assez peu présent dans les nouveaux programmes.
Mais c'est pas vrai. On parle de chômage. C'est pas vrai du tout. On parle de chômage, environnement. Il y a tout un chapitre, donc, sur la croissance. Et toute une partie qui est sur la croissance durable. Et de dire, évidemment, il y a le problème du réchauffement climatique, des ressources limitées. Ce qui était expliqué, c'est que dans un monde sans innovation, effectivement, il ne peut pas y avoir de croissance à long terme dans un modèle avec ressources limitées ou réchauffement climatique. Mais s'il y a l'innovation peut vous permettre de faire reculer les limites, pour peu qu'elles soient vertes. Alors toute la question après devient par quels outils de politique économique on incite à la production verte ou à l'innovation verte.
Mais le bien fondé de la croissance en tant que telle n'est pas interrogé.
Ah, mais absolument, on dit le PIB par tête, mais on s'interroge aussi, est-ce que c'est la seule mesure de développement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures que le PIB par tête? Donc l'aspect inégalité, l'aspect environnement, on parle de bonheur, donc tous les sujets dans le programme, et d'ailleurs c'est une des questions qu'on nous a posées. On a voulu tout traiter. Tous les sujets sont dans le programme. Alors le problème, c'est qu'après, on nous reproche qu'il soit trop lourd, trop long. Mais on a voulu exclure. Il n'y avait aucun sujet tabou.
Alors on va faire entendre Agnès Labrousse, qui n'a pas l'air d'accord du tout avec vous.
Oui, en particulier sur le programme de première, hein, puisque l'essentiel est consacré à un seul type de microéconomie, qui est la microéconomie néoclassique. Or, il existe d'autres types de microéconomie qui sont fondées sur autre chose que l'homo economicus, qui sont fondées sur d'autres types de rationalité, des hypothèses différentes. Et qui sont justement en interaction avec beaucoup de courants sociologiques dans la façon d'appréhender les comportements économiques. Et puis j'ajouterais que dire qu'il n'y avait pas de données, grosso modo, dans les années 50, 70, 80, c'est très exagéré. C'est-à-dire, on avait quand même énormément...
Il y avait Kuznets, mais enfin Kuznets n'avait pas les mêmes données que Piketty, par exemple. Vous voyez, les bases de données n'étaient pas... Donc tout le mérite de Kuznets, d'ailleurs.
Mais il y avait quand même... Il n'y avait pas autant de données qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même beaucoup d'économistes qui faisaient de l'économie empirique. Alors, c'est pas ce qui était le mieux évalué dans les revues les mieux cotées. Mais ce qu'a déploré, par exemple, un Léontief, hein, voilà, lui, il utilisait beaucoup de données. Oui. Voilà. Ça me semble quand même très exagéré et très
caricatural. On peut s'interroger sur cette idée d'un cloisonnement disciplinaire qui serait encore accentué par la réforme de 2018. Pierre-Michel Minguère, est-ce que c'est une bonne chose pour vous de séparer ainsi dans l'enseignement secondaire l'économie et la sociologie comme c'est le cas dans l'enseignement supérieur?
Moi, ma doctrine de base depuis que je suis en âge d'apprendre quelque chose, c'est il y a des sciences qui ont des corps de connaissances qui sont constitués et il n'y a aucune raison de penser que le syncrétisme qui consiste à mélanger tout ça va permettre de faire une meilleure science que d'apprendre les fondamentaux avant d'ouvrir la porte pour voir ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est vraiment une conviction profonde. La sociologie s'est constituée notamment contre l'économie et ensuite à elle de justifier ses positions et aussi de bénéficier. Il n'y avait pas de lecteur plus attentif de l'économie que Durkheim à un moment donné et bien d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on absorbe tout dans une sorte de syncrétisme un peu immaîtrisable. Parce que si vous ne donnez pas crédit à chaque science, et nous voulions, l'objectif c'est quand même de dire ce sont des sciences, ce ne sont pas des débats citoyens, ce sont des sciences. Elles doivent produire de la connaissance qui est absorbable, cumulative et qui peut faire preuve. Et à cet égard-là, la maximisation de la différence est un objectif intéressant à un premier stade, avant qu'on regarde avec les outils qui ont été procurés aux élèves dans les deux ou trois disciplines, il y a aussi la science politique, de croiser les approches qui sont proposées et à leurs professeurs de croiser les approches.
Mais c'est un débat très ancien, Pierre-Michel Minguère, comme vous le disiez, c'était déjà Durkheim, c'était Pareto, c'était Max Weber qui se posait la question de la relation entre sociologie et économie.
Mais bien sûr, mais à partir de la constitution de savoir qui sont créés dans et avec des corps des noyaux durs de savoir qui sont bien constitués.
Agnès Labrousse.
Alors permettez-moi de diverger un petit peu là-dessus, parce que justement quand on regarde l'origine des différentes disciplines, alors les disciplines ne sont pas monistes, elles sont plurielles. Alors prenons l'exemple de Durkheim, il est allé passer un semestre en Allemagne et là il a été très fortement influencé par les économistes, les institutionalistes allemands de l'école historique d'économie, notamment Gustav Schmoller, et puis après il y aura Max Weber qui est de la troisième génération de cette école. Et donc ce qui dérangeait Durkheim, c'était l'économie marginaliste naissante. Et le fait qu'elle n'intégrait pas les institutions, les croyances. Et puis, si on veut reprendre, vous avez cité Pareto, etc. Pareto, il pensait que, d'une part, il a été l'un des fondateurs du marginalisme. Il y avait pour lui plusieurs composantes très importantes pour comprendre les phénomènes économiques. Tout d'abord, la théorie pure, marginalisme. Il savait très bien qu'elle était profondément abstraite et profondément éloignée du réel. Il fallait la compléter, selon lui, par de l'économie appliquée et en plus de ça par de la sociologie économique pour intégrer les passions, pour intégrer la diversité des comportements, etc. Et c'est l'un des contributeurs, par exemple, de la sociologie des élites.
C'est intéressant votre remarque parce que l'histoire des disciplines s'est construite par opposition l'une à l'autre, effectivement. Et il n'y a aucune raison de penser que chaque discipline ou chaque science n'a pas à exercer son droit de constitution d'un corps de connaissances à sa manière. Mais il se trouve aussi que la grande division de Pareto que vous avez citée, qui était de dire aux sociologues le monde trouble et hétérogène des actions non logiques et aux économistes le monde des actions rationnelles et logiques, tout ça vole en éclats aujourd'hui. On sait bien que les comportements individuels sont de plus en plus présents dans tous les modèles et il y a un corps de connaissance, ou du moins de réflexivité qui est partageable, je pense. Ça n'empêche pas les rivalités et le conflit des impérialismes. Ça fait partie du jeu scientifique. Quand j'ai fait un numéro de la Revue française de sociologie en 97 qui était ouvert sur beaucoup de disciplines, qui était un dialogue entre sociologie et économie, j'ai invité des économistes de plusieurs bords et ça ne me gênait pas du tout. Et j'avais lu un ouvrage formidable, une enquête sur les sociologues et les économistes, on demandait à chacun de dire ce qu'il pensait de l'autre. Et évidemment qu'il y avait des rivalités et ce que j'appelle le conflit des impérialismes.
Rapport de force ou complémentarité.
C'est un peu comme dans, c'est pas un tribunal parce que là, sociologie, on n'est pas l'un contre l'autre, on est là. Mais il y a toujours ces il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus. Pourquoi on a un avocat d'un côté, un avocat de l'autre? Parce que chacun va réunir toutes les pièces. Et ensuite, on a le maximum d'informations. Je crois que c'est beaucoup plus productif. Moi, j'ai souvent interagi donc avec des sociologues. J'étais à Nuffield College à Oxford. C'était économie, sciences politiques, sociologie. Ensuite, dans un institut canadien, on a un groupe où il y a des sociologues. Mais on a besoin les uns des autres. Avec les différences, avec les méthodes des uns et des autres. On travaille ensemble, mais on s'enrichit les uns des autres. Et le programme, c'est ça. Il y a les méthodes de base et ensuite, on croise les regards.
Est-ce qu'un certain cloisonnement des disciplines empêche le dialogue?
Pas du tout, au contraire. Le dialogue est parce qu'il y a les différences. Oui. Sinon, il n'y a pas de dialogue, il y a monologue.
Agnès Labrousse.
J'ai changé de voix. Alors, là aussi, je pense que les choses sont... que les relations entre les deux disciplines sont beaucoup plus complexes. Je prends un autre exemple d'un... Vous direz Max Weber, pour vous, c'est sans doute un des pères fondateurs de la
sociologie.
Celui
qui réunit le plus de monde sur son nom pour voilà. dire c'est notre Dieu.
Eh bien,
on va l'entendre dans la seconde partie de l'émission.
Pendant la totalité de sa carrière, les chaires qu'il a occupées étaient d'abord des chaires d'économie. Et il faisait partie, encore une fois, d'un courant de pensée, qui est un courant de pensée institutionnaliste en économie. On prend Thorstein Veblen, un spécialiste de la consommation, qui a mis en avant le concept.
Un siècle, c'est plus comme ça maintenant.
Prenons les régulationnistes aujourd'hui.
J'aimerais quand même dire un mot. Parce que
ou les conventionnalistes.
Je voudrais quand même, dire un mot.
Si tout le monde parle en même temps, on ne va pas y arriver.
Oui, mais moi, je voudrais quand même pas. C'est que si vous voulez, nous, dans ce programme, on veut enseigner ces disciplines comme elles le sont aujourd'hui dans les meilleurs endroits au monde. Voilà.
C'est-à-dire que
l'économie, je suis désolé, mais Agnès, mais l'économie, je ne peux plus l'enseigner comme il y a 40 ans, l'école néoclassique, l'école machin. Je ne peux pas l'enseigner comme ça. Parce que je veux enseigner l'économie, oui, la sociologie, et comme nous l'enseignons maintenant dans les meilleurs endroits au monde. Et c'est ça qu'on a voulu faire dans ce programme d'économie. Mettre au niveau du secondaire ce qui se fait de mieux. J'ai enseigné à Harvard, j'ai enseigné à Oxford, j'ai enseigné. Je veux mettre au niveau du secondaire ce qui se fait de mieux. Il y a des gens qui ont la chance d'envoyer leurs enfants aux États-Unis. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'envoyer leurs enfants. Je veux que tous les enfants en France aient accès à ce qui se fait de mieux maintenant.
On va laisser finir Agnès Labrousse.
Moi aussi, je veux que mes étudiants amiénois aient accès à absolument ce qui se fait de mieux. Et je vous rassure, il y a des courants économiques contemporains, l'économie des conventions, la théorie de la régulation, etc. Par exemple, pour citer des exemples français, qui travaillent avec des économistes et qui n'en sont pas restés au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe.
On ne vous mettra pas d'accord. Et de toute façon, on va continuer le débat, mais dans un tout petit instant.
War is coming, and we're stuck here. Here where the minute veins, where the letter tears, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear, it's not enough to die. And we're stuck here, here where the minute veins, where the letter tears, a bigger picture says we belong. All together, that's ever strong. This body of mine, this humanity, is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. It's not enough to die.
War is coming, la prophétie de Jeanne Hatted sur France Culture. D'entendez-vous l'écho? Notre débat sur le juste enseignement de l'économie se poursuit en compagnie d'Agnès Labrousse, Philippe Aguillon et Pierre-Michel Minguer.
L'absence presque totale de charbon, de pétrole, en dehors de la Sicile bien évidemment, et de minerais de fer, fait que la productivité de l'industrie italienne a dû...
Monsieur ?
Oui ?
C'est quoi la productivité ?
Le rapport du produit au facteur de production. Donc, fait que la productivité a dû s'adapter à une économie plus dynamique. Pourtant, de 1960 à 1973, la consommation énergétique italienne a doublé.
On a vu Amarcord. Tu connais pas ?
Non.
C'est vous dire l'importance du pétrole dans l'Italie d'aujourd'hui.
Mais t'es con, il y avait Saint-Étienne-Liverpool à la télé, c'était génial. Allez, les verts,
le pétrole
allez, les verts, allez, Liverpool.
Qu'est-ce que je viens de dire, chauvet ?
14%, monsieur.
Ouais.
14%, bien joué, de l'art de discuter en classe tout en suivant le cours d'une oreille. Extrait du Péril jeune de Cédric Clapiche qui met en scène l'ennui mortel des lycéens en cours d'éco. Il y a encore des efforts à faire pour rendre l'économie plus attrayante, Philippe Aguillon.
Oui, par exemple, je pense que... Nous avons parlé tout à l'heure de la microéconomie en première. Je crois qu'on peut rendre la microéconomie, c'est-à-dire les comportements d'achat, de vente, de concurrence, de très attrayante. On peut faire des jeux de concurrence. Voilà, j'ai un concurrent, comment j'empêche l'entrée, comment je... Les jeux de duopole. La microéconomie peut être rendue très ludique. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a de l'information, quelqu'un ne l'a pas? Qu'est-ce qui se passe quand chacun veut pêcher dans une mare, dans un étang, et ça finit par être mauvais pour tout le monde. Comment on modélise et comment on peut jouer sur ces choses-là.
Et pourquoi c'est important d'en parler avant les politiques monétaires? Alors, et
c'est important parce que je vais vous expliquer de plus en plus maintenant la macroéconomie. Elle a des fondements micro. Pourquoi ? Parce que on n'est pas tous pareils. Vous voyez ce que je veux dire ? On est hétérogène. Par exemple, l'effet de la crise financière. Pourquoi ça a eu un effet ? Pourquoi les subprimes ça a eu un tel effet ? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui empruntaient. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. Ils empruntent, par exemple, pour payer des études à leurs enfants. Donc, l'inégalité a résulté dans beaucoup d'emprunts. Et ça fait une économie surendettée. Donc, quand il y a eu les subprimes, ça a rendu l'économie très vulnérable. Donc, si on ne voyait pas qu'il y avait des gens différents les uns des autres, eh bien, on ne pouvait pas comprendre l'impact. Vous voyez, un autre exemple, la concurrence, ça peut stimuler l'innovation de firmes très performantes et décourager les firmes moins performantes. Quel est l'effet total? Vous voyez, je dois regarder la micro. Un autre exemple, l'économie espagnole, par exemple, c'est très intéressant. Elle exporte de plus en plus et elle est de moins en moins compétitive. Comment ça peut être vrai? Parce que les firmes très productives sont celles qui exportent et elles se sont beaucoup améliorées, mais les firmes moins productives qui n'exportent pas, elles, par rapport au reste de l'Europe, elles se sont détériorées. Et donc, si je ne regarde pas au niveau des entreprises, je ne peux pas comprendre un paradoxe comme le paradoxe espagnol. Vous voyez, c'est de plus en plus la macro, c'est une macro avec agents hétérogènes. Si je traite la macro comme un agent représentatif, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Donc, il faut la micro pour comprendre la macro.
La question qui demeure, c'est celle d'un possible manque de pluralité au sein des programmes économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce débat autour de la pluralité en économie existe aussi dans l'espace public,
par exemple,
à l'université. Je finis simplement. À l'université également, les économistes hétérodoxes accusent les orthodoxes de les exclure du champ médiatique et universitaire. On se souvient de l'essai publié en 2016 par Pierre Cailloux et André Zilberberg, le négationnisme économique. À l'inverse, ces deux économistes accusaient les hétérodoxes de s'accrocher à des conceptions dépassées au point de sombrer dans l'obscurantisme. Où est-ce qu'on en est dans ce débat, Agnès Labrousse?
On en est un petit peu au point mort. Alors, je dis tout de suite, moi je suis du côté des économistes dits hétérodoxes. Alors, on a quand même fourni toute une série de données qui n'ont pas été contestées justement sur la disparition du pluralisme en économie qui ne laisse pas place plus qu'à un pluralisme interne, à la diversité interne, au programme de recherche dominant. Donc, il y a une diversité, mais c'est un peu comme la diversité qu'il y avait au sein des différents courants les tendances du Parti Socialiste, avec des débats certes acerbes et mouvementés, mais qui ne représentaient pas toute l'étendue du paysage politique. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de maintenir un minimum de biodiversité intellectuelle. Et
concrètement, ça se manifeste dans les postes à l'université, par exemple, dans les publications.
Voilà, c'est les revues qui sont les mieux placées dans les rankings qui servent à évaluer les chercheurs, en fait. Ce sont des revues qui se sont fermées depuis les années 80 à toute une série de courants de pensée. Le Quarterly Journal of Economics, par exemple, qui a été fondé par des économistes institutionnalistes, ne les accueille plus depuis cette période. Pareil pour toutes les grandes
revue. Est-ce qu'on peut parler d'une tyrannie du top 5 des revues américaines? C'est ce que dénoncent par exemple les économistes comme Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, Philippe Aguillon.
Alors c'est vrai que si vous voulez, enfin je dirais tyrannie, c'est vrai que beaucoup de carrières de chercheurs sont organisées internationalement autour de publications en économie, dans ces journaux, dans un certain nombre de revues. Enfin maintenant, il y a aussi de nouveaux journaux qui apparaissent. Et c'est vrai, mais ça va plus loin que ça, parce que certains de ces journaux sont des journaux qui privilégient aussi les gens qui sont dans les universités où ces journaux sont basés. Par exemple, le Quarterly Journal est basé à Harvard, le Journal of Political Economy est à Chicago. Voilà, donc ça. C'est vrai qu'il y a un peu un biais dans ce sens, mais c'est vrai que ces journaux se renouvellent aussi beaucoup. Donc je pense que si vous comparez ce que sont ces journaux, il y a beaucoup de jeunes quand même qui publient et des gens d'une génération un peu plus ancienne ont plus de mal à publier. Donc ça serait un problème aussi si on voyait toujours. Mais c'est vrai qu'il y a
ce qui est dénoncé, c'est le manque de transparence autour du choix.
Il y a peut-être trop de fétichisation de ce qu'on appelle le top 5, et je pense qu'effectivement il faut de la place pour tout le monde.
Jean-Michel Manguet. Les plus retentissants de critiques sur le top 5 pour dire est-ce que le top 5 publie des articles qui sont importants, innovants, etc.
C'est James Heckman.
Vous savez qui c'est? C'est James Heckman, prix Nobel d'économie. Ça, c'est un problème intéressant. Est-ce que les disciplines sont capables de nourrir leurs critiques internes? Et c'est un problème, ça c'est le signe de la maturité d'une discipline. Si une discipline ou un fragment de discipline se dit je détiens la vérité, quoi qu'il arrive, qu'elle soit hétérodoxe ou orthodoxe, et j'avance tout droit, et je dis si on me cherche des noises, c'est parce qu'on s'en prend à la vérité. Ça, c'est un réflexe obsidional classique. Le minimum syndical d'une science, c'est d'accepter et de nourrir la critique interne sur des bases rationnelles. Et sur des bases, et puisque vous citiez Max Weber a fait son dogme de la neutralité axiologique.
Ah ben c'est-à-dire,
on ne va pas tout politiser a priori pour dire, voilà les bons, voilà les méchants, en avant marche. La science ne fonctionne pas comme ça. L'opinion peut fonctionner comme ça, le savoir intellectuel ou expert peut se nourrir de ce genre de choses, mais la science doit procéder autrement.
Sinon, elle n'occupe
pas son territoire.
Je vous propose d'écouter ce qu'en dit justement Max Weber dans ses essais sur la théorie de la science, paru en 1904.
Bravo.
En faisant une distinction de principe entre jugement de valeur et savoir empirique, nous avons jusqu'à présent présupposé qu'il existe effectivement une connaissance valable inconditionnellement, c'est-à-dire un ordre raisonné de la réalité empirique dans le domaine des sciences sociales. Cette supposition devient désormais un problème, dans la mesure où il nous faut discuter de ce que peut signifier, dans nos disciplines, la validité objective de la vérité que nous cherchons. Personne ne peut ignorer que ce problème se pose, et qu'il n'est pas soulevé par simple subtilité. Il suffit pour s'en convaincre d'observer la querelle autour des méthodes, des concepts fondamentaux et des présuppositions. Le constant changement des points de vue et le continuel renouvellement des définitions des concepts employés. Ou encore, de considérer l'abîme en apparence infranchissable entre les formes de la recherche théorique et celles des études historiques. À la manière de ce candidat viennois qui, un jour, se plaignit amèrement de constater qu'il y avait deux sortes d'économies politiques.
Philippe Aguillon, comment le savant, qu'il soit économiste ou sociologue, peut-il préserver son objectivité ? À la lecture de ce texte de Max Weber.
Si vous voulez, moi, je crois qu'il y a, enfin, je sais, enfin, j'adore, il n'y a pas une manière, et je crois qu'il faut, moi, disons, ce que j'essaye de faire, moi, dans ma manière de travailler, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une idée a priori. Et puis, j'ai vu que les données, c'était pas comme ça. Par exemple, j'ai cru que les investisseurs institutionnels favoriser le court-termisme et pas les projets de long terme. Et j'ai vu sur des Américains que c'était pas vrai. J'ai essayé de comprendre. J'ai cru que les entreprises innovantes, c'était surtout les gens qui travaillent dans les occupations élevées qui étaient primés et pas ceux qui étaient dans des occupations plus bas. Et j'ai vu que c'était pas vrai. Alors au début, je me suis trompé. Et puis, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc je crois qu'il faut avoir une attitude, une modestie, si vous voulez, de dire voilà, j'avais un présupposé. Je vois que les données me sautent au visage et me disent quelque chose d'autre. Eh bien, la réalité n'a pas tort. C'est moi qui ai tort. Je dois reprendre.
Donc, il faut savoir identifier ces biais cognitifs.
Donc, si vous voulez, c'est déjà d'avoir cette humilité. C'est-à-dire de dire, j'ai pu dire une connerie, quoi. J'ai pu commencer avec une idée fausse. Et pas de dire, je ne vais ignorer tout ce qui ne va pas dans le sens de ce que je pensais. Ça, je pense que ça va dans la direction d'une démarche scientifique. Je pense pas qu'il y a une seule manière d'être scientifique. Mais ça, je pense que c'est une façon, d'avoir une démarche scientifique.
Il faut savoir d'où on parle, en fait, Agnès Labrousse.
Oui,
essayer de savoir si tu es...
D'abord, je suis pleinement d'accord, et ça mérite d'être signalé avec ce que vient de dire Philippe Aguillon. Et je voudrais aussi revenir en fait sur Max Weber et son principe de neutralité axiologique. Parce que le propos de Max Weber est souvent un peu réduit et simplifié. C'est-à-dire que pour Max Weber, il affirmait pas que les sciences sociales sont capables de produire des connaissances positives qui seraient complètement dénuées de valeur. Il montrait lui-même combien le choix des thèmes de recherche était en partie influencé par des valeurs qu'on porte parfois même sans s'en rendre compte. Et donc son propos était surtout de condamner les scientifiques qui transgressent la frontière entre propositions scientifiques et valeurs en profitant de leur position pour faire passer dans leur discours leur propre conviction. Et d'ailleurs, il était par exemple critique de certains économistes, pas de tous, qui déduisaient de leur analyse théorique des principes universels et intangibles. Et donc, pour lui, ou des professeurs qui profitaient de leur chair pour imposer leur conviction. Et donc, il expliquait que le principe fondamental, le principe régulateur de tout ça, c'est, je cite Weber, il faut accorder en même temps à toutes les opinions partisanes la possibilité de se faire valoir dans une salle de cours. Et donc, là, on arrive à un point fondamental, c'est que le pluralisme est un principe régulateur. L'objectivité, elle n'est pas forcément individuelle, on n'est jamais parfaitement objectif. Elle est d'abord collective, elle se fait dans la confrontation des points de vue et de chercheurs qui sont porteurs de valeurs et de présupposés qui vont être différents.
Ce qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est on ne peut pas se cacher les choses. La science, c'est la compétition des théories, des méthodes, des modèles. Le dernier cours de Bourdieu, qui pensait par ailleurs qu'il était le meilleur économiste du monde et qui n'aimait pas l'économie, mais le dernier cours de Bourdieu a porté sur la concurrence et la compétition. Ça n'est pas un hasard. Il se trouve que le monde scientifique, c'est un monde où le devoir, c'est de faire preuve et de ne pas accorder du prix à la séniorité de X ou Y, ou bien au fait que un individu détient une position élevée dans l'université. N'importe qui a le droit de critiquer, et tout le monde connaît les expériences à Harvard, un prix Nobel qui fait un exposé. S'il ne se fait pas dézinguer par un jeune qui lui pose une question redoutable, il pensera qu'il a échoué dans son cours, et il sera très content s'il obtient des objections formidables de quelqu'un de la salle qui est tout jeune et qui lui dira « là, ça ne va pas, qu'est-ce que vous en pensez ?» parce que ça le fait progresser. La compétition, c'est absolument nécessaire. Et la compétition ne peut pas être sous la règle d'une norme implicite où on dirait « voilà à quoi je veux arriver de toute façon parce que ce sont mes valeurs et donc je veux démontrer ça quoi qu'il arrive. C'est mon fil rouge. »
À condition que la compétition soit juste.
La compétition doit être organisée, évidemment. Elle doit être correcte, mais elle doit aussi faire preuve. Et il faut qu'on avance les preuves de tout ce qu'on avance. Évidemment, ça, c'est le terrain majeur de la production scientifique, et ça traverse toutes les disciplines. Il n'y a pas de paix perpétuelle au sein d'une discipline, ça n'existe pas.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que si, par exemple, la pensée des hétérodoxes est moins présente, c'est parce que vous trouvez qu'il y a une légitimité scientifique qui est moins forte dans ces
travaux.
Elle
doit faire la preuve que sur des problèmes qui sont donnés, elle a des compétences et des productions et des résultats supérieurs à ceux de
parce que ce qui peut se passer, il peut se passer à chaque fois. D'abord, il y a des grands noms dans l'économie hétérodoxe, Orléans, Boyer. Aglietta, ce sont mes maîtres. Moi, je veux dire, j'ai appris avec eux. Et par exemple, j'organise les journées économiques de Lyon. Enfin, il se trouve que je suis président maintenant du comité scientifique des journées économiques de Lyon. Et pour moi, c'est toujours important que ce courant soit représenté. Mais il faut faire attention qu'on ne dise pas, voilà, parce que j'ai vu beaucoup de courants et grandir, et puis en économie, ce qui se passe, c'est que les idées évoluent, et puis il y a des sujets où il y a des courants qui passent de mode ou qui sont moins en vogue. Et il peut y avoir le danger aussi de dire, moi, je constitue une école. Et avec l'école, si vous voulez, je rigidifie la chose. C'est-à-dire que ça devient un instrument de protection. Alors qu'on est tous vulnérables au fait qu'il va y avoir des jeunes. Moi, je crois beaucoup dans la destruction créatrice. Mais je commence à dire, je crois dans ma propre destruction créatrice. Un jour, je vais devenir obsolète moi-même.
Évidemment.
Et je me soumets à ce test. Il ne faut pas que je me constitue en école pour empêcher que des nouveaux viennent me critiquer et dire, tu es un vieux ringard et tes trucs sont démodés.
Il y a des penseurs qui s'accrochent à leur siège, Agnès Labrousse.
Bien, il s'avère que... je coanime avec Robert Boyer un séminaire sur la théorie de la régulation en perspective, et j'y étais hier à l'EHESS hier soir, et je peux vous dire que Robert Boyer est tout sauf quelqu'un qui s'accroche à son pouvoir. Et en fait, justement, c'est la personne, quand je le vois interagir en séminaire, en conférence, c'est la personne la plus ouverte qui adore dialoguer avec les jeunes, qui adore se confronter à d'autres hypothèses. Voilà, donc ça fait vraiment pas partie des dinosaures aussi.
Ce qui peut se passer, c'est que je ne fais pas référence à vous, Agnès, mais des fois, il peut y avoir des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a les grands, donc il y a Boyer, Aglietta, Orléans, vous en êtes certainement, mais il peut y avoir d'autres qui ne sont pas forcément des grands et qui s'accrochent à l'école parce que eux, vous voyez, comme protection. Et ça, ça peut arriver.
Mais ça protège
eux,
de
les
rien.
Les très grands, eux, n'ont jamais peur, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils ont... Mais il peut y avoir d'autres, je veux dire, je parle, moi j'ai vu ça dans des partis politiques ou j'ai vu ça dans d'autres organisations, mais ça, je marche sur les plates-bandes de Pierre Michel, où on peut vouloir, s'étant pas forcément imposé scientifiquement, on s'accroche à une école pour dire, voyez, vous attaquez l'école.
La rente réputationnelle est l'ennemi de la production de la vérité. Le plus grand honneur d'un scientifique, c'est d'être dépassé, critiqué, et surtout pas de se cloner à travers des disciples qui vont reproduire à l'infini sa production. Ça n'a aucun sens.
Mais à condition d'exister dans le débat public,
bien
médiatique.
Bien sûr, à condition que effectivement, que les arguments soient mis en confrontation rationnelle et qu'il y ait manière de faire preuve et consensus. Si évidemment on détruit tout de suite l'idée que le consensus peut être produit par les preuves, si on n'a pas des preuves et qu'elle est acceptée, alors évidemment c'est la guerre de tous contre tous.
Agnès Labrousse.
Oui, alors je tenais à dire que quand même l'école, fonder une école, alors il faudrait voir quels sont ses murs, et l'école ne peut protéger que si on est déjà puissant. Là, je renvoie à un article de Paul Romer, qui n'est pas réputé pour être un économiste hétérodoxe du tout, qui critiquait notamment son directeur de thèse, Robert Lucas, en expliquant que justement on avait bâti avec les modèles d'anticipation rationnelle, qu'on avait bâti des modèles qui étaient totalement immunisé du réel, et que dès que quelqu'un faisait justement des remarques critiques, il y avait une telle référence par rapport au chef de file qui était puissant, etc., ça ne se faisait pas de le critiquer, et donc lui-même dit que c'était des comportements quasi sectaires. Donc ça, c'est d'autant plus problématique que ces gens-là ont le pouvoir.
Oui, mais ils n'ont pas duré ces comportements. Vous allez à Chicago maintenant, c'est plus comme
c'est
ça.
Fini.
Ouais. Chicago a complètement changé.
Ce qu'on voit, c'est bien du temps. Ce qu'on voit, c'est que c'est 3 ans que ça a été dénoncé seulement.
Ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement compliqué de créer du consensus, et pourtant on a besoin de consensus pour créer des programmes à la fois dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur.
Il y a une grande distinction dans les sciences, et la sociologie des sciences l'a très bien étudiée, entre les sciences qui peuvent créer un consensus paradigmatique et les sciences qui ne le créent de toute façon pas. Il y a un axe du consensus et du dissensus paradigmatique qui tient à leurs objets aussi. Les objets des sciences sociales ne sont pas des objets de la physique ou de la biologie. Les molécules ne sont pas là à dire non, moi je n'accepte pas ce modèle.
Et dans ce contexte, comment on fait un programme qui est nécessairement fini, Agnès Labrousse ?
Eh bien, un programme, il peut être fini en présentant différents points de vue. Et je pense que on n'a pas besoin d'une vérité unique établie. On présente différents points de vue, on les confronte à des faits, justement. Donc, c'est absolument pas un problème. C'est la solution pour moi.
Mais il n'y a pas une seule théorie. Dans les programmes donnent des éclairages sur différentes questions. Et il n'y a pas un point de vue unique sur les questions.
On arrive au terme de l'émission. Est-ce que vous auriez envie de dire peut-être un mot sur les façons aujourd'hui d'améliorer l'enseignement de l'économie, sachant que la question est évidemment différente selon qu'on parle du secondaire et de l'enseignement supérieur, Agnès Labrousse?
Alors, je pense qu'il faut tenir compte de ce que nous racontent les étudiants. Il y a eu toute une série de mouvements étudiants qui réclamaient justement plus de pluralisme, plus d'histoire économique, plus d'enseignement réflexif, de pas présenter la discipline économique comme purement technique. Et au niveau international, les études faites sur ce sujet sont extrêmement convergentes. Il y a une étude belge qui vient de sortir pour Rethinking Economics. Donc, en fait... voilà, parce que l'économie s'est de plus en plus standardisée sur le modèle états-unien, mais en partie seulement, eh bien, les solutions sont un peu les mêmes. Et écoutons nos étudiants.
Pierre-Michel Minguer.
Moi, j'ai appris l'économie en découvrant la notion de risque et d'incertitude. Et donc, j'invite les élèves et leurs professeurs à avoir une curiosité infinie à partir de connaissances et de savoirs solides. Et ça,
c'est aussi
formidable.
Une démarche de l'élève.
C'est une démarche qui est, évidemment, et avec les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est extraordinaire. La masse des connaissances, mais il faut l'ordonner et il faut la construire. Et on ne la construit bien qu'avec un corps de connaissances suffisamment solide. Ça ne veut pas dire qu'il est uniforme, mais ça veut dire qu'il est solide et que on a un certain nombre de principes de base, savoir modéliser, savoir penser ce que sont les facteurs, les interactions de facteurs, savoir ce que c'est que la quantification et la preuve, savoir comment construire une démarche de recherche. Ce sont des routines, des méta-compétences absolument essentielles.
Moi, juste un mot, je crois que je reviens à ce que disait Blanchard, c'est-à-dire apprendre à raisonner, que les gens puissent se faire leur modèle dans leur tête, qui disent, voilà, moi, j'acquiers une autonomie, je peux raisonner par moi-même, et je peux raisonner en modélisant dans ma tête et en confrontant aux faits. Et à partir de là, on peut tout faire, quoi. Et c'est ça qu'il faut inculquer, c'est le raisonnement. C'est pas de dire, je vois ça, telle école, c'est d'inculquer les raisonnements économiques et que voir comment on apprend à raisonner en physique ou dans d'autres matières.
Apprendre à raisonner. Le mot de la fin, et c'est ce qu'on va continuer à tenter de faire ici.
Et de voir la différence entre une causalité
émission.
Et une corrélation, le dialogue modèle empirique. Voilà, c'est ça que je voudrais.
Un grand merci à tous les trois. C'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Le rééquilibrage fiscal en faveur des moins riches a-t-il vraiment eu lieu? Une étude publiée hier par l'OFCE sur la période 2018-2020 relance le débat. Deux façons de voir les choses, l'une politique, l'autre méthodologique.
Oui, et tout d'abord la polémique du président des riches qui ressurgit à l'occasion de cette étude sur l'impact des politiques fiscales macroniennes post-gilets jaunes. Étude qui montre que les baisses d'impôts ont moins bénéficié aux plus pauvres qu'aux classes plus aisées, dit l'OFCE. Qui souligne que même deux tiers d'entre eux ont perdu en revenus, alors qu'au contraire, un quart de ces fameux 17 milliards en tout de baisse d'impôts a bénéficié aux ménages les plus fortunés. Vraie disproportion donc, alors qu'après les premières mesures sur les hauts revenus de 2017, le rééquilibrage fiscal était attendu. Président donc des ultra-riches, commente un député de la France Insoumise, mais cette évaluation est au moins la troisième indépendante depuis l'automne dernier, et si toutes ne montrent pas les mêmes disproportions, eh bien, les classes moyennes et supérieures sont effectivement les principales bénéficiaires de ces mesures, particulièrement les actifs. Alors, s'agit-il vraiment d'un cadeau électoral, plutôt un pari, explique l'économiste et professeur à Marseille, Alain Tranois.
Si on regarde en pourcentage du pouvoir d'achat initial, pour une, disons, à peu près deux tiers des Français, ça représente entre 1,5 et 2,5% de gain de pouvoir d'achat. Donc, c'est pas si déséquilibré, mais par contre c'est vrai que sur le premier tiers, sur le tiers des Français les plus pauvres, les plus défavorisés, les avantages sont moins manifestes. En fait, si on ajoute les dispositifs les uns aux autres, on voit que les seules mesures qui ont concerné le bas de la distribution, c'est l'augmentation du minimum vieillesse et l'augmentation de l'AAH, de l'allocation pour les adultes handicapés. Donc, ça a été, je crois, une volonté dans le discours et dans les faits de privilégier les actifs, la classe moyenne supérieure. Et si on regarde effectivement l'électorat d'Emmanuel Macron, ceux qui ont voté préférentiellement un peu plus pour lui en 2017, mais ce que je voudrais signaler, c'est que dans cette politique qui favorise l'activité par rapport à la non-activité, clairement, le gouvernement en attend un retour vers l'emploi. S'agissant de l'ISF et de la flat tax, c'est quand même quelque part à éviter que les Français les plus riches partent à l'étranger, à ce qu'ils investissent en France, à ce que la création d'entreprises reparte, ce qui est le cas. Donc ça ne sera que, je dirais, en 2022 qu'on verra si toute cette politique qui a sa cohérence a permis non seulement de créer des emplois et in fine, c'est quand même quelque chose d'important je crois pour tous les Français, de réduire le taux de pauvreté.
Le gouvernement aussi avait produit sa propre étude et le ministère de l'économie parle de désaccord méthodologique.
Oui, c'était une étude qui était en annexe du budget. Le gouvernement qui affirmait au contraire que le pouvoir d'achat des moins aisés avait augmenté jusqu'à 2020 et qu'il augmenterait de plus de 2% encore plus que pour les plus riches, donc la différence tient en fait à la prise en compte ou non de certaines mesures, dont beaucoup sont incitatives, comme la hausse du prix du tabac, qui n'atteint en fait le pouvoir d'achat que si le fumeur reste à consommation constante. L'OFCE n'en tient pas compte dans sa photographie, dit Alain Tranois, alors qu'il faudrait peut-être voir le film, c'est-à-dire l'économie dans sa dynamique, à suivre donc d'ici 2022.
On passe au bref avec le feuilleton d'Engie et le suspense. C'est cet après-midi que le conseil d'administration du groupe se réunit pour décider du sort de sa présidente et donner des éclaircissements.
a eu pour l'instant la parole. Encore une fois aux politiques, pour couper court aux interrogations et critiques sur les relations tendues entre dirigeants d'Engie ou sur la vente d'une partie de l'entreprise par l'État qui en possède 26%, Bruno Le Maire démentait ce matin. Son président Jean-Pierre Clamadieu, en lutte contre la directrice Isabelle Kocher, n'aura jamais son poste et celui d'Isabelle Clamadieu, et il n'y a pas de volonté du gouvernement de vendre ses parts. Pour l'instant, tout le monde s'accuse en tout cas d'affaiblir le champion gazier, comme disait Bruno Le Maire, et du renouvelable français. Quant à l'action d'Engie, après s'être reprise de sa chute du week-end, elle frémit et s'effrite de nouveau depuis ce midi.
Et pour finir, le feuilleton boursier et peut-être la fin du suspense, le coronavirus, la coronavirusophobie n'atteint finalement pas les marchés mondiaux.
Et oui, pardon, Stéphane, c'est difficile. Après le plongeon des cours de la semaine dernière, les injections de liquidités de la Banque centrale chinoise semblent avoir rassuré les marchés. Toutes les places semblent se reprendre aussi, de manière spectaculaire pour New York avec un troisième jour de hausse consécutif, mais aussi pour l'Europe. L'inquiétude d'une extension à l'est chinois du coronavirus semble être un peu retombée, peut-être parce que malgré la hausse du nombre de décès, la mortalité encore n'excède pas 2%, peut-être aussi à cause des rumeurs hier de traitements trouvés à Wuhan, démentis par l'OMS.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal de l'Écho. Et un grand merci à nos trois invités qui ont permis ce débat animé, Agnès Labrousse, Philippe Aguillon, Pierre-Michel Minguer. Merci enfin à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Auvin et Alain de Recours, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Adèle Caglar. On se retrouve demain pour un débat autour de l'économie britannique. Le Brexit et Boris Johnson sont-ils en train de transformer cette économie britannique? On en parle avec Catherine Mathieu, Vincent Vicard et Eric Albert. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.